tout à fait.
Moi, c'est André Dimboudimaï, au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens sur Radio Okapi. Les conseillers du ministre de la fonction publique en charge des réformes et de la modernisation de la fonction publique est l'invité du magazine Parole aux auditeurs de ce lundi 7 juillet 2025. Il est venu répondre au directeur agent retraité de la fonction publique qui affirme être victime d'une violation de leurs droits fondamentaux par l'autorité de tutelle. Vous rappelez de l'émission qui a eu lieu le 26 juin. Juin dernier sur cette chaîne là, où des directeurs agents retraités de la fonction publique affirmaient avoir être victimes de violation de leurs droits fondamentaux par l'autorité de tutelle. Et selon communiqué de l'association africaine des défenseurs du droit de l'homme Azado publié le 1er juillet courant, ces agents et fonctionnaires de l'État réclament entre autres leur reconnaissance de grâce le paiement de leurs arrêts de traitement de janvier à juillet 2024. Ils appellent également au paiement du reliquat de la Banque mondiale qui n'a pas été versé en totalité aux retraités ayant droit et l'octroi des soins médicaux et frais funéraires à l'instar de la CNSS, Caisse nationale des sécurités sociales. Voilà, c'est avec notre invité, le conseiller Carlos Caloto, que nous allons aborder cette question aujourd'hui pour avoir plus d'éclairage par rapport à ce sujet. Si vous voulez intervenir, vous pouvez nous écrire à l'adresse, à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant 09 716 80 79. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets. Nous vous disons merci.
Allô.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le Pinchouchape, dans ces pays, n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de votre fidélité à Radio Capilla Fréquent de la Paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Et comme j'ai toujours l'habitude de le faire, merci également, je dois le faire à l'équipe de production, la Deps Vita, qui est à la mise en onde. Je lui fais à Bongonda, qui est là, pour la réalisation et la coordination de ce magazine. Et également à nos collègues de l'équipe multimédia, Paul Badianama. Voilà, il est là. Et au micro, c'est Marcel Ngombala. Tout et à tous. Et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro, de parole aux auditeurs, monsieur Carlos Caloto, bonjour.
Bonjour monsieur Marcel et bonjour à tous nos auditeurs de partout où ils nous suivent et en particulier à son excellence monsieur le vice-premier ministre Jean-Charles
voilà,
Yaou.
Que vous représentez parce que vous êtes son conseiller chargé des réformes et de la modernisation de l'administration publique certainement. Vous avez peut-être suivi hein, en tout cas tout ce qu'affirment les agents retraités, les directeurs de la fonction publique et par rapport à certains nombres de revendications. Ils parlent d'un problème, de réclame entre autres leur reconnaissance de grade, le paiement de leurs arrêts de traitement du janvier à juillet 2024, mais aussi au paiement de reliquat de la Banque mondiale qui n'a pas été versé en totalité aux retraités ayant droit et l'octroi des soins médicaux et frais funéraires à l'instar de la CNSS. Qu'est-ce qu'il en est exactement?
Bon, vous savez, en liminaire, je voudrais d'abord remercier hein, l'émission Parole aux auditeurs pour cet espace de dialogue républicain qu'il instaure dans l'espace de notre pays. Vous savez, dans chaque démocratie, il est important de rappeler que les débats sont très importants lorsqu'ils contribuent au progrès.
Oui.
Et nous, justement, c'est dans cette optique que nous nous situons. Mais lorsqu'on mène un débat sur un sujet aussi important que celui sur la retraite, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Il ne faut pas s'éloigner des faits. Il faut rester dans, dans les efforts, il faut reconnaître les efforts qui sont fournis par le gouvernement dans les secteurs de l'administration et de la fonction publique, et spécialement en ce qui concerne le processus de mise à la retraite. Et donc, nous avons suivi avec intérêt l'émission qui s'est passée, vous avez dit, le 26 juin.
Oui.
Et c'est vrai que il y a certains aspects qui ont été évoqués au cours de cette émission qui méritaient, loin de toute polémique, hein, qui méritaient que de clarifications objectives soient apportées afin de permettre à l'opinion de se faire une idée éclairée sur les efforts liés à la réforme de l'administration publique en cours. Alors, les processus de mise à la retraite, il faut comprendre que la retraite d'abord, en elle-même, c'est une réforme structurelle. C'est une réforme qui nécessite beaucoup, alors beaucoup de volonté politique. Pour preuve, ça fait plusieurs décennies, c'est depuis plusieurs décennies que le processus des retraites avait été stoppé. Et le gouvernement de la République, sous son excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a hérité d'un lourd passif des départs à la retraite. Aujourd'hui, on en compte à peu près 314 000 agents éligibles à la retraite. Mais dans cette occurrence, la première des choses, c'était de relancer d'abord le processus de mise à la retraite. Mais quand on relance un processus de mise à la retraite, on ne relance pas uniquement pour les nouveaux éligibles. On prend sous notre dos tous ceux qui ont été éligibles à la retraite, qui ont été retraités, tous les litiges de l'année, des années et des décennies antérieures. Alors, donc, nous avons suivi l'émission qui a été animée en tout cas en présence du président de l'ASADO,
Maître
Jean-Claude Katende, que je respecte beaucoup, qui est un grand juriste et qui est à la tête de cette association qui défend les droits humains. Et nous nous situons sur ce coup-là. Mais il y a quand même des affirmations qui ont été faites sur ce plateau et qui méritent un certain recadrage, si je peux me le permettre. D'abord, lorsque on dit que, et nous allons peut-être y revenir, qu'il y aurait un communiqué, bon, nous ne l'avons pas reçu ce communiqué, et qu'il y aurait plusieurs correspondances adressées à la fonction publique et qui seraient restées lettres mortes, vous savez, s'il y a un ministère, il y a dans le gouvernement, tous les ministères essayent de faire des efforts d'ouverture en termes d'open data à l'endroit des usagers. Mais s'il y a un ministère qui a toute une politique, toute une stratégie d'ouverture à l'égard des usagers, à l'égard des agents et fonctions de l'État, parce que c'est notre travail de tous les jours, c'est travailler pour les agents. Le travail du VPM Jean-Pierre Liaou, c'est travailler tous les jours pour les agents. Et pour cela, il a mis en place ce qu'on appelle Farafara. C'est chaque mercredi. Et des dernières images, vous verrez que parfois lui-même, il vient à la réception du cabinet pour recevoir les usagers. Donc, je ne peux pas imaginer que, vous savez, Maître Katende, il défend le droit de l'homme. Mais je pense que sous ce coup, il a peut-être été induit en erreur par ces agents qui sont venus vers lui. Mais c'est de son droit aussi de porter ces genres de voix pour...
Il a parlé des correspondances adressées à son excellence, enfin au ministre de la fonction publique, qui n'ont pas eu de suite. Bon, peut-être que le plus important, c'est de clarifier la situation, comme vous l'avez dit. Oui. Parce que là, par exemple, il y a des agents qui affirment qu'il y a peut-être une sorte de sélection par rapport à la promotion au grade de... Et là, si il a moyen de clarifier tout cela, parce que nous l'avons dit lors de cette émission, ça, il faut le reconnaître. Et même Maître Jean-Claude, quand il a reconnu le ministre de la fonction publique, et parmi ceux, en tout cas, qui sont appréciés hein, par rapport à tout ce qu'il fait, surtout les réformes courageuses qu'il a menées au sein de l'administration publique. Et voilà, c'était très important pour nous quand même d'avoir un éclairage par rapport à ça.
Bien sûr. Alors, donc, je vais vous proposer qu'on y aille point par point.
Allez-y.
Voilà.
Allez-y.
Alors, donc, les directeurs qui sont des gens honorables, parce que déjà, directeur, c'est dans la catégorie A de la structuration administrative de notre pays, et donc c'est des hauts fonctionnaires, directeurs. Alors là, il faut faire peut-être la part des choses entre ceux qui étaient déjà directeurs et parce que vous savez, dans notre législation, quand vous allez à la retraite, vous devez bénéficier d'un grade supérieur. Mais il y a des conditions. Mais pour des raisons sociales, pour des raisons de réalisme et de pragmatisme démocratique, le VEPM, en pilotant le processus de mise à la retraite, a mis en place des mesures de souplesse pour beaucoup plus favoriser les fonctionnaires lorsqu'ils partent à la retraite. Et donc, quand vous êtes directeur, quand vous partez à la retraite, vous avez droit à une promotion. Vous partez comme secrétaire général honoraire. Mais quand vous êtes chef de division en cours de carrière et que vous devez partir à la retraite, vous devez bénéficier d'un grade et donc vous partez comme directeur. Et donc, sur ce coup-là, je ne sais pas dans quelle est la catégorie qui est concernée par les cas qui étaient portés par le maître Katende, mais je vais y aller quand même. Et donc, il y a, à ce jour, il y a des erreurs qui peuvent être commises, et ça, on le corrige tous les jours. Mais il n'y a personne qui peut prétendre avoir été mis à la retraite sans bénéficier de la promotion en grade. Tous ceux qui étaient des directeurs sont partis comme secrétaire général honoraire. Et comment s'est fait même le processus de traitement et de fiabilisation des listes? C'est toute une grande commission. Les dossiers partent de administrations sur base d'une liste qui est tirée de la base de données de la fonction publique. Ces listes sont publiées. Je pense que tout le monde a pu voir circuler en 2022. Et chaque fois qu'on a un processus de mise à la retraite en cours, on fait circuler, on envoie ça aux administrations sectorielles qui ont l'obligation d'afficher ces listes pour que chaque agent puisse le voir et savoir est-ce que son nom est bien écrit. Est-ce que son matricule est bien écrit? Est-ce que son grade actuel d'exercice est bien repris? De sorte qu'il y a une facilité en cas d'erreur de faire remonter les formations, de sorte que lorsque l'acte sera pris par l'autorité compétente, en l'occurrence son exemple sur le président de la République, qu'il n'y ait aucune erreur. Alors, aucune erreur. Et donc, ça nous a étonnés de voir aussi beaucoup plus d'écouter ces qualificatifs, des sélectifs ou des privations, privation de droit. Et s'il y a des erreurs, on le corrige parce que ça reste un travail fait du bien. Donc, un processus transparent pour la fiabilisation des listes qui permet, autant que faire se peut, d'éviter ce genre de situation. On n'a aucun intérêt à priver d'un agent sa promotion de départ à la retraite. Maintenant, il faut le reconnaître que nous avons hérité d'un système qui a perduré dans l'administration publique. Cette transparence dans la gestion du processus des retraites n'était pas démise depuis un certain temps. Il vous souviendra qu'en 2009 à 2010, nous avons hérité d'un recours fleuve des éligibles à la retraite. Les gens se sont réveillés un bon matin, ils sont sur une liste révoquée, mise à la retraite. Mais vous savez, et ça c'est à l'attention de nos auditeurs, cette situation a perduré durant près de 10 ans. Ces gens ont marché à la fonction publique. Ils ont fait des recours, ils sont passés partout. Ils ont saisi les Sénats, ils ont saisi la Cour constitutionnelle, mais ils n'avaient jamais reçu gain de cause.
Ouais.
2009-2010. Et lorsque le gouvernement mis en place par le président de la République a été mis en place, on a pris les dossiers à main et le président de la République a signé le 5 juillet 2022 l'ordonnance portant réhabilitation et replacement en activité des services. C'est un exemple qui est palpable des cas de prise en charge, de recours qui sont introduits en cas d'erreur sur les grades et qui ont été corrigés. Et tous ces agents ont été rétablis dans leurs droits. Tous les directeurs qui étaient directeurs et qui n'avaient pas bénéficié de la promotion au grade de secrétaire général ont été réhabilités et sont partis sous Félix Tshisekedi, sous la proposition de Jean-Pierre Liaou, sont partis à la retraite comme secrétaire général honoraire et bénéficiaient de tous les droits y afférents. Ça, c'était en rapport avec cette prétendue privation du grade à la retraite.
Alors maintenant, par rapport à l'reliquat du paiement de la Banque mondiale qui n'a pas été versé en totalité, il parle de 12 000 $, mais non, il reçoit 8 000 $.
Mais vous savez, encore là, Vous savez, le principe de la continuité du service public, c'est tellement un principe sacré que je ne peux pas ici me permettre de dire qu'on ne connaît pas ce problème. On prend, comme le veut Paiement l'habitude de le dire, on prend ça sur nous. Mais quand vous dites la Banque mondiale, on est en 2017. C'est un processus de retraite qui a été piloté en 2017 et financé par la Banque mondiale, bien sûr. Mais il faut quand même être aussi honnête. Lorsqu'ils disent que c'était prévu 11 000 et ils n'ont perçu que 7 000, on va recevoir. On a déjà reçu plusieurs fois nos directeurs retraités de cette époque-là. Et on débat avec eux tous les jours. Et je pense qu'on va encore en débattre parce que il faut juste qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour organiser encore une rencontre sur ces sujets-là avec les autres parties prenantes. Mais tout le monde a été payé, du moins ceux qui ont été payés, ils ont été payés en totalité de leur dû. Je ne peux pas imaginer qu'un processus piloté et financé par la Banque mondiale, vous savez la rigueur des projets gérés par la Banque mondiale, qu'on puisse retenir une partie destinée au paiement des indemnités de fin de carrière des concernés. Mais je ne peux pas trop m'y pencher. Mais je sais que le processus de retraite de 2017 a été accompagné de certaines coquilles. Il y a plusieurs recours qui ont été introduits, mais un système de gestion du recours avait été mis en place. Il y a presque 500 recours qui avaient été introduits, mais...
De recours qui ont été traités, examinés.
Bien sûr, recours qui ont été traités, examinés et répondus. Mais, comme je le disais tantôt, nous héritons aussi du passé. Les gouvernements sous Monsieur le Président de la République, a réglé certains litiges laissés depuis la mise à la retraite de 2017. Vous savez, en 2017, on a mis à la retraite, pendant toute la durée du financement de la Banque mondiale, 926 agents. Et parmi lesquels, il y avait aussi 477 agents des régies financières, ainsi que de l'INS, qui, mis à la retraite dans les actes, mais qui n'avaient jamais été payé en termes d'indemnité de fin de carrière. Ça, c'est un fait. On ne discute pas sur le fait. Mais ça, c'est mise à la retraite en 2017, donc avant Félix Tshisekedi au pouvoir. Et donc, quand il est arrivé, il a instruit au ministère de la fonction publique de prendre en charge cette problématique. Et figurez-vous, tous ceux qui n'avaient pas été payés lors du processus de retraite de 2017, je parle bien de ceux des régies financières et de l'Institut national des statistiques, ont été payés, complètement payés par le gouvernement.
Voilà, faut qu'on avance rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, hein, ça sera le 2 dernier avant de revenir pour accorder la parole aux auditeurs. On parle également du paiement de leurs arriérés de traitement de janvier à juillet 2024, mais aussi de l'octroi des soins médicaux et frais funéraires.
Non, mais encore là, il faut. C'est encore un autre problème d'honnêteté. En 2024, malgré toute la bonne volonté du gouvernement, on n'a pas eu un processus de mise à la retraite. En 2024. On a eu la retraite, la vague de retraite, les deux vagues de retraite en 2022. En 2023, on a eu le Parlement a octroyé une enveloppe de 240 milliards de francs congolais pour financer la retraite, mais le contexte électoral et tous les autres impératifs n'avaient pas permis un processus de retraite à ce niveau-là. En 2024, la même chose. Avec le contexte sécuritaire dans lequel traverse notre pays, tout le monde le sait, on n'a pas eu une vague de mise à la retraite. Et donc, quand ils disent le paiement sélectif à certains retraités de la pension de retraite ou du traitement de base de janvier à juillet 2024, ils ne savent pas de quoi on parle. Par contre, il faut se mettre d'accord. Lorsqu'on est mis à la retraite, on devient passif. On n'est plus actif. Le salaire, il est payé aux actifs. Et avec les efforts du gouvernement en cours, on mène une réforme sur la politique salariale. Les efforts sont faits de telle sorte qu'on doit maîtriser la masse salariale. La masse salariale des actifs doit rémunérer les actifs, améliorer les conditions de vie des actifs. Ici, on se plaint qu'il y a beaucoup d'agents qui sont non payés, les agents de l'administration publique sont sous-payés, et il y a des disparités salariales à gauche et à droite. Mais pour résoudre ce problème, il faut avoir une pensée bien aiguisée. Il faut chercher le moyen, et on le cherche le moyen en nettoyant, en assainissant, aussi le fichier de la paix. Donc, quelqu'un qui est mis à la retraite, il a droit à sa pension de retraite. Et la pension, à ce jour, on va peut-être y revenir un peu plus tard, la pension de retraite est payée régulièrement par la Caisse nationale de sécurité sociale.
Voilà, monsieur Carlos Carlotto, c'était très bien, en tout cas, d'apporter à toutes ces précisions. On va ouvrir le standard pour recueillir les avis des auditeurs. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des sens citoyens, parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Carlos Carlotto, conseiller chargé des réformes et de la modernisation de l'administration publique, qui est venu apporter un certain éclairage sur toutes ces revendications des agents et cadres de la fonction publique retraité qui affirme être victime d'une violation de leurs droits fondamentaux par l'autorité des tutelles. Si vous voulez intervenir, composez 09-66-80-79.
Parole aux auditeurs.
Nous avons déjà en ligne Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Nous avons également le directeur Rémi Sungula qui nous appelle à Kinshasa, Franck qui est à Vienne et puis Trudon qui est à Lualaba, qui est dans la province de Lualaba. On y va avec Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis le Lubumbashi. Maître Patrick, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à monsieur le conseiller du ministre, à tous les auditeurs de la radio Capitole.
On vous écoute.
Merci de organiser à nouveau également ce débat parce que nous l'avons débattu avec M. Katine, il ne l'a pas passé. Nous avons décelé quelques failles dans le fonctionnement du ministère de Finances et de la fonction publique. Il faut reconnaître qu'il y a quand même des réformes qui ont été initiées. L'honnêteté scientifique nous obligerait de les reconnaître. Et c'est ici peut-être l'endroit également de féliciter le ministère de la fonction publique ainsi que toute son équipe pour le travail des titans abattus. Seulement, il y a des inquiétudes. Ça est là, et notamment dans l'état d'espèce aujourd'hui, c'est sur les droits des retraités. Je ne vais pas rappeler aux conseillers que ce sont les droits constitutionnels, les droits universellement garantis. Ils le savent certainement bien que moi. Mais ici, il y a des cas réels, matériels, documentés par maître l'aîné, l'honoré confrère Katende, qui a si exposé les problèmes. Je pense, par exemple, que M. Katende n'était pas par rapport aux affirmations tout à l'heure de M. Conseiller. M. Katende vous a affirmé ici qu'il a introduit plusieurs lettres également au niveau du ministère. Aucune réponse jusqu'à là. Pensez-vous que M. Katende n'a pas introduit des lettres et que vous, vous dites la vérité? Et si oui, vous avez la vérité, est-ce que vous avez quand même les éléments de preuve qui prouvent réellement que vous n'avez pas réussi? Parce que de l'autre côté, M. Katende peut avoir, être en possession des documents. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxième aspect, je voudrais vous poser quelques questions. Quelques questions. Au-delà des défis majeurs rencontrés par vous, c'est-à-dire par le ministère, monsieur le conseiller, il y a notamment, ça c'est un fait réel, il faut les reconnaître également, les retards, si bien également irrégularité dans les paiements de pensions. Moi-même qui vous parle, je suis de cette famille, certains membres de la famille sont victimes de ça. Il y a un retard, il y a également des irrégularités dans les paiements de pensions. Il y a l'absence d'une pension minimale indexée. Il y a également la non-méganisation de plusieurs retraités, lenteur dans la procédure de mise à la retraite, manque d'accompagnement administratif et social, inexistence des couvertures médicales post-retraite. Ça, vous le savez. Alors, je voudrais maintenant vous poser des questions, monsieur le conseiller. Au regard de tous les défis énumérés par moi et que d'autres que vous connaissez pertinemment bien, quelles mesures concrètes avez-vous prises, c'est-à-dire vos ministères, pour assurer le paiement régulier et digne des pensions des anciens retraités? Ça, c'est la première question. Si vous pouvez noter la deuxième question également, quand prévoyez-vous la mise en œuvre effective d'un guichet unique pour la retraite des anciens publics? Parce que nous avons également salué l'innovation et tout ce qui voit, surtout que vous êtes en charge des réformes également, nous saluons, nous voyons de loin qu'il y a une certaine numérisation de la fichier, l'audit et tout ça. Mais à quand vous prévoyez également un fichier, CIFA, un guichet unique relatif à la retraite également? Ça, c'est une autre question également. Et comment garantissez-vous la viabilité financière de la CINSAP pour couvrir durablement les pensions? Parce que il faut reconnaître que la CINSAP,
cette structure de l'État qui habilite ou qui est habilité à pouvoir donner ou prendre en charge les retraites ou les retraités également. Alors, quelle est la garantie financière, voire même la viabilité financière de la CNSAP pour couvrir durablement les pensions? Vous avez vu également la CNSAP, il y a des quoi et ça et là. Vous les connaissez très bien. Je pense qu'il y a également un problème de financement. Mais ici, dans cette émission, la fois passée, vous n'avez pas été là, mais il y a des gens qui ont déclaré, je parle bien des directeurs, qui ont déclaré qu'ils ont reçu 8 000 au lieu des 12 000 qui ont été décaissés par la Banque mondiale. Est-ce qu'il peut y avoir une communication là-dessus avec des éléments de preuve? Voilà un peu quelques questions, mais aussi quelques défis. Est-ce que vous pouvez nous répondre de manière concrète et véridique également?
Voilà, merci beaucoup Maître Patrick Odia d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. Il y a le directeur Rémi Assungula, voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Je pense qu'il est concerné par ces questions, parce que je me rappelle bien, il est intervenu également la fois dernière. Monsieur Rémi Assungula, vous avez la parole, on vous écoute. Vous appelez depuis Kinshasa.
Merci beaucoup Radio Okapi. Je suis très content de voir qu'il y a un conseiller qui s'est pointé aussi pour nous affronter dans cette situation. Mais je vais vous rappeler une chose. Le 26 mai 2021, tout au début de son mandat, le ministre Liaou nous a reçus dans son bureau. Nous étions une délégation de 11 directeurs. Nous étions reçus par le vice-premier ministre dans son bureau vers 17h. Et nous avons mis presque 2 heures avec lui. Nous avons échangé et nous lui avons remis un document. Donc, ce document s'intitule relevé de revendications des directeurs et agents de l'administration publique 2017. Ce relevé-là contenait tous les documents et même des pistes et des solutions données au ministre. Il m'a posé personnellement la question, est-ce qu'il y a des pistes et des solutions dans ces documents? Je lui ai répondu, oui, il y a des pistes et des solutions dans ces documents. Bon, vous êtes mes papas, vous avez travaillé avec mon père et tout ça. Je ferai de mon mieux pour trouver des solutions à votre problème. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous sommes partis. Et quelques jours après, nous avons encore demandé l'audience auprès du vice-premier ministre. Il ne nous a pas reçu. Et plusieurs fois, nous avons demandé des audiences, il ne nous recevait pas. Et jusqu'ici, je vais vous rappeler que Monsieur le vice-premier ministre n'a jamais répondu à nos revendications posées depuis 2021. Vous vous rendez compte? Et depuis 2021, nous n'avons pas reçu la réponse à notre dossier. Nous avons posé plusieurs fois les demandes d'audience auprès du vice-premier ministre. Il ne nous reçoit pas. Et nous sommes allés jusqu'à l'ASADO. Actuellement, d'ailleurs, nous sommes avec l'ASADO, où nous avons présenté toute la situation des retraités auprès de l'ASADO. L'ASADO a pris soin d'écrire au vice-premier ministre pour que nous puissions traiter ce dossier auprès de son cabinet. Le vice-premier ministre n'a pas répondu à sa demande.
Alors maintenant, puisqu'il faut avancer, directeur Rémi, nous avons son conseiller qui est ici, qui est justement chef des réformes de la modernisation de l'administration publique. Vous avez certainement peut-être suivi cette émission dès les débuts, là, donné en tout cas un certain nombre d'explications par rapport à certaines questions. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Comme ça, on va aller de l'avant.
Nous continuons à poser notre revendication.
Oui.
Si le VPN pouvait recevoir l'ASADO avec nous, nous pourrions à table traiter ces dossiers. Parce que jusqu'ici, nous sommes insatisfaits dans le sens où les secrétaires généraux ont reçu la dérogation du ministre de la fonction publique. Il leur a octroyé 702 000 francs par mois. Et nous avons, ce que j'ai rappelé la fois passée, nous n'avons que 50 dollars. Bon, et le ministre des Finances a laissé entendre le 24 avril 2024 au cours d'un briefing avec le ministre de la Communication, et les retraités touchaient 150 à 200 dollars par mois. Donc, il y a un barème peut-être caché et nous ne connaissons pas. Et nous n'avons jamais touché cet argent. Et les soins médicaux, nous ne les accordons pas. Les frais funéraires, il n'y en a pas. Il y a des morts chez nous, mais qui ne sont pas atterrés, qui ne sont pas soignés. Tout ça, ce sont des problèmes.
Voilà, vous persistez, pour vous persistez, en tout cas, si tel est bien le cas, et vos revendications sont légitimes, hein, voilà. Merci, directeur Rémi Soumoula, d'avoir appelé depuis quelque chose, parce qu'il faut qu'on accorde absolument le temps à notre invité de réagir, autrement, il serait venu pour rien. Alors, merci d'avoir appelé depuis quelque chose. Franck, vous nous appelez depuis Vienne, on vous écoute, Franck.
Oui, bonjour à votre question. Bonjour à l'invité. Nous saluons d'abord ce réflexe de voir le ministère concerné nous faire aussi un retour pour qu'on ait un peu des idées précises de ce qui se passe là. Je crois que ça serait encore mieux qu'on fasse parler un autre directeur ou secrétaire général en retraite, comme ça on pourrait encore avoir beaucoup d'autres détails. Mais personnellement, je trouve que c'est triste. Je dois vraiment être vrai et honnête. Je trouve que c'est triste parce que je me dis, quand quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital. Il y a un médecin qui se présente pour le consulter ou des infirmiers. On peut lui proposer un schéma de soins. Mais si le schéma de soins n'est pas convenablement appliqué jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin, ça ne sera pas vraiment du côté des médecins ou des infirmiers de dire que le malade est totalement guéri ou le patient va très bien. Parce que quand on est malade, c'est le patient, c'est le concerné qui doit dire que ça va, il est totalement guéri par rapport au schéma de soins qu'on lui a proposé. Et si je dois maintenant confronter les propos, les avis de ce que le conseiller qui est avec vos studios venait de dire, en rapport avec ce que le secrétaire Papa Rémi venait de présenter, c'est comme si les malaises, il y a encore des malaises manifestes. Alors, on peut maintenant se demander, est-ce qu'il y a vraiment, c'est vraiment vrai tout ce qui se dit du côté des ministères? Et ça fait mal, mais moi, je crois que nous sommes un état de droit. Nous disons un état de droit. Et dans un état de droit, les préalables les plus fondamentaux, les préalables fondamentaux, c'est d'abord de respecter les droits de tout le monde, de faire respecter, de faire valoir les droits de tous les citoyens. Et si maintenant on doit se rendre compte que sur vos ondes, on dit qu'on les respecte, mais ceux en faveur desquels tous ces droits doivent être appliqués ne les reconnaissent pas ou vous disent ouvertement qu'on n'est pas dans cette situation-là, ça fait mal, mais où sommes-nous? Je crois que du côté du ministère, il fera encore mieux de revoir leur manière de faire et au besoin peut-être chercher à recevoir encore ces groupes-là, s'il y a une délégation qu'on les reçoive, qu'on voit encore ce qu'on doit faire, parce que ça donne quelle impression à ceux qui sont en train de travailler de voir que ceux qui se sont donnés corps et âme pour la RDC sont comme remerciés à monnaie de singe. Aller à retraite, c'est quand même un état de grâce, c'est un état d'honneur. Là où je suis personnellement, les retraités sont valorisés parce qu'ils vous font voir que voilà, j'ai été là-bas pendant mon temps, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et c'est de l'histoire des gens qui ont travaillé pour vous.
Voilà, merci.
Mais c'est des gens qui ont travaillé pour vous, vous ne savez pas respecter
voilà, merci.
Leur voix.
Merci.
Vous ne savez pas faire valoir leurs revendications. Vous donnez quel message? Vous suscitez
voilà,
quelle
merci
intention?
Franck d'avoir appelé depuis Vienne. Hein. Il faut qu'on avance. Tridon nous appelle depuis la province de là-bas. Tridon, vous avez la parole.
Merci Marcel. Merci à tous les auditeurs de la radio de la paix. Merci aussi, je salue en passant les conseillers présents dans ce studio. Alors moi, je commence par saluer ces processus en cours, supervisés par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, visant à faire partir effectivement un certain nombre d'agents et fonctionnaires éligibles à la retraite. Cette réforme plus large de la fonction publique, qui inclut la mise à jour des listes des agents éligibles et le traitement des dossiers de retraite, n'est-ce pas, qui est venu, à mon avis, non seulement aider ces gens-là à aller calmement en retraite, mais aussi causer un sérieux problème dans le secteur de la fonction publique, bien sûr. Mettre à genoux 314 000 personnes sans l'indemnité. C'est là que je voudrais poser la question, parce qu'il y a une petite préoccupation à notre invité, le conseiller. Je voudrais d'abord savoir quels sont les critères pour envoyer des agents, des fonctionnaires de l'État à la retraite. Parce que j'ai un exemple ici. Je prends l'exemple pratiquement à Dilolo. Je suis dans le secteur de l'éducation. Il y a des enseignants qui ont été mis sur la liste d'aller en retraite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un enseignant qui s'est plaint dernièrement. Je ne sais pas quelle solution le conseil peut donner. Un enseignant de 32 ans qui s'est vu aller en retraite vite, vite, à la place, à lieu de place de celui qui pouvait avoir 80 ans. Tout simplement, c'est pas moi par erreur ou comment. Et d'abord, une certaine catégorie de personnes qui devraient aller en retraite.
Voilà, Trudeau n'a compris. S'il vous plaît, vous cherchez à comprendre le critère de ces soins. S'il vous plaît. Bon, allez-y, chutez rapidement. Il ne faut pas insister sur la même chose. Il faut qu'on avance. Oui, allez-y.
Non, je voulais citer Marcel, s'il
allez-y,
vous plaît.
Allez-y.
Vous m'avez accordé un peu de minutes par rapport aux autres. Oui, je voudrais que l'on nous dise, parce que tout simplement, mon procédé, j'ai vu Prince Ode qui a parlé. Est-ce que il respecte réellement les conditions pour amener? Vous avez envoyé quelqu'un.
Mais vous insistez sur la même chose, s'il vous plaît. Vous insistez sur le critère. Il faut qu'il reprend par rapport au critère. Quand vous tournez autour du pot, on va pas avancer. Merci Trudeau d'avoir appelé depuis là-bas. Ah, monsieur Conseil, vous avez la parole et puis peut-être on pourra encore prendre aux deux auditeurs et puis lire deux réactions des auditeurs. Allez-y.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Vous savez, c'était important qu'on vienne la fois dernière. On a subi un procès par défaut, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va clarifier quelque chose. Donc, vous savez, quand j'ai entendu le directeur Rémi Sungula, que je salue et que je respecte beaucoup, dire que le VPM les a reçus, affirmer qu'il les a reçus lui-même, pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Il les a reçus lui-même dans son bureau le 22 mai 2021. Il dit que c'était à 17h. Ils ont passé 2 heures du temps en train de discuter. Vous savez, il y a des affirmations qui ont été faites ici sur la manière dont les membres du gouvernement réagissent. Mais là, vous avez un témoignage, en fait, qui vient de faire de manière indirecte, qui devrait commencer par là aussi, la fois dernière. Donc, le VPM, les portes du ministère de la fonction publique sont là pour les agents. Et autant que faire, c'est peu. On vous a reçu, il y a aussi des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, il y a un problème d'agenda qu'il faut... Et donc, je pense que sur l'audience, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a une sollicitation pour...
Peut-être après, il n'y a pas eu suivi, peut-être, oui.
Vous savez, faut faire le suivi aussi. Mais je ne dis pas qu'il faut absolument qu'un usager ou un agent fasse le suivi pour que son dossier soit traité. Non, on résout le problème de fonctionnaires tous les jours qui passent à la fonction publique. On dort même parfois au ministère de la fonction, mais c'est notre travail, donc on va pas s'en plaindre. Mais si vous avez déjà été reçu par l'autorité, il faut faire le suivi de votre dossier auprès de ce conseiller. Moi, je vais inviter deux aujourd'hui ici, monsieur le directeur est disposé. Moi, je peux le recevoir dès aujourd'hui à 15h. Et si...
L'invitation est faite en direct de ce magazine.
Bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, à 15h, il peut venir au cabinet du VPM. Et si on trouve que à notre niveau, donc au niveau de notre cellule, on n'est pas en mesure de résoudre le problème auquel il fait allusion, bien sûr que le VPM a ses portes largement ouvertes pour le recevoir, pour recevoir son groupe, pour recevoir l'ASADO, mais moi, je suis venu ici d'abord pour que l'opinion puisse comprendre que lorsque on parle de la réforme de la retraite, il faut, au-delà des difficultés qu'il y a, qui sont réelles, au-delà des problèmes qui sont réels, qui ont été hérités des décennies des dysfonctionnements de notre système de retraite, il faut aussi reconnaître les efforts qui sont fournis dans ce sens. Et donc... Il y a monsieur Patrick Audien, ouais,
qui a posé un certain nombre de questions.
Qui pose un certain nombre de questions. Vous savez, il parle de mécanisation des retraités qui pose. Il y a un problème des concepts là. Moi, je suis un technicien, donc je veux peut-être me permettre de clarifier quelque chose. Je disais tout à l'heure que un retraité, il change de maison de gestion, on va dire. Il n'est plus géré comme actif. Il devient géré comme un passif. Après les loyaux services rendus à la nation, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui est un organisme créé et qui dispose de tout le moyen nécessaire pour assurer une gestion régulière, transparente et correcte de ceux qui ont rendu des bons et loyaux services à la nation. Et aujourd'hui, il parle de retard de paiement dans les pensions. On a un dispositif de recours qui existe en ligne. Vous savez, quand vous allez sur le portail de la fonction publique, vous pouvez écrire directement au VPM www.fonctionpublique.gouv.cd et même à la CNSAP. La CNSAP a un dispositif numérique par lequel, si vous avez une revendication, un retard ou quelque chose, mais ces genres de retards, des choses sur la manière dont la pension est payée, c'est ce qui s'est passé avant. On a essayé de résoudre ce problème de retard et des arriérés de paiement de la pension. Aujourd'hui, la pension de retraite est payée à temps. Chaque retraité reçoit sa pension de retraite à temps. Maintenant, si, comme je le disais tout à l'heure, il y a des cas de revendications par-ci, par-là, il y a des canaux qui sont habilités par lesquels les revendications peuvent passer. Mais parlons un peu de la modicité de la pension. Vous savez, dans ce pays, avant Jean-Pierre Liaou, la pension de retraite était payée à combien? La moyenne, c'était 2000 francs. Il y a un de auditeurs qui a pris la parole la fois dernière, qui disait que son père, il percevait 150 francs. En fait, ça, c'était dans ce pays, dans ce même pays. 150 francs à l'intérieur du pays. 500 francs. 1000 francs. Et le directeur, quand il parle des 50 dollars, il parle de 50 dollars qu'il reçoit. Aujourd'hui, les efforts doivent continuer. C'est pour ça qu'il y a la réforme sur la politique salariale. Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi ces 50 dollars? Ces 50 dollars, parce que la base de cotisation sociale qui est sur le traitement des bases dans la rémunération, c'est la partie la plus faible. C'est la partie la plus faible de la rémunération. Donc si on vous retient, vous avez au total, je prends un exemple, vous avez une rémunération de 2 millions de francs congolais, je donne un exemple comme ça. Mais votre salaire de base, c'est 200 000 francs, ou disons 300 000 francs. Vous cotisez votre retraite sur base de 300 000 francs. Donc, votre retraite ne va pas vous permettre d'avoir un revenu de remplacement comme si vous étiez actif. Donc, c'est toute une réforme qui est structurelle, qui est en cours pour essayer de renverser la tendance et de faire en sorte que celui qui part à la retraite...
Donc, ce travail fastidieux... Hein.
C'est la retraite, partout au monde, c'est une réforme structurelle qui nécessite de la volonté, qui nécessite de moyens, qui nécessite du courage. Et aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour que demain, en tout cas la retraite de demain, ne soit pas comparable à la retraite d'hier. Et déjà même, la retraite d'aujourd'hui est totalement différente de celle d'hier. Et donc, il y a Maître Patrick qui me posait des questions pour savoir, alors, quelles mesures pour assurer le paiement régulier. Je disais tout à l'heure que d'abord, la caisse qui est créée, c'est un établissement public qui est géré sur base de principes d'orthodoxie alors exceptionnels sous l'œil vigilant de son autorité de tutelle. Et il y a des institutions internationales qui suivent, qui auditent les finances de la caisse. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à se faire. Alors il dit, est-ce qu'on peut mettre en place un guichet unique de la retraite? Alors, ça dépend de ce qu'il met derrière le concept de guichet unique, mais aujourd'hui, on a la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 qui fixe le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et qui prend alors, qui gère la retraite non seulement des agents des carrières, mais des militaires, des policiers, des enseignants, des magistrats, en fait de tous les agents publics de l'État. Et vous avez entendu dernièrement la réforme qu'a portée le VPM au Parlement pour modifier cette loi et intégrer le personnel politique dans le système de retraite.
Le critère, si on doit pour essayer...
Alors, les critères. Aujourd'hui, la loi prévoit deux critères, mais qui ne sont pas cumulatifs, qui sont alternatifs. Soit vous avez 65 ans d'âge, soit vous avez 35 ans d'ancienneté de carrière. Vous êtes éligible à la retraite. Mais quand il cite l'exemple d'un agent, d'un enseignant qui aurait été retraité à 32 ans, ben manifestement, ça doit être une erreur. Mais il faut un peu tempérer. On est quand même dans un pays où on a vécu des cas de transmission de matricules. Bon, il parle d'enseignants, c'est un peu un cas particulier. Mais il y a des gens, le papa est décédé, il avait 80, comme il dit. Mais il y a un fils qui a hérité d'un matricule par de manière un peu frauduleuse. Et il s'est tapé le matricule, excusez-moi le concept, le matricule de son père. Il a commencé à travailler. Mais dans la base des données, c'est le matricule de son père qui continuait à figurer. Et donc, lorsque il arrive la retraite arrive, c'est possible qu'on ait des cas. Mais je ne dis pas, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas trop forcément les dossiers. Donc, il peut nous approcher pour que nous puissions voir dans le fond de quoi il s'agit.
Alors, Monsieur Conseil, puisqu'il faut avancer, il faut reconnaître, et parce que ça, il faut insister, nous l'avons dit la dernière fois, on le répète encore aujourd'hui, le travail abattu par le ministre Jean-Pierre Liaou est reconnu par la population congolaise et surtout par les fonctionnaires. Je m'en vais, pardon, lire cette réaction de Amas Hirosine à Léon, qui est fonctionnaire de l'État, que c'est comme ça qu'il se présente. Si c'est de cette manière que les ados traitent les dossiers des droits de l'homme, il a lieu de douter de la qualité de ces informations. Considérer les allégations du retraité de l'administration publique sans approcher au problème de l'autorité de tutelle est une sorte de ramassage sans nettoyage. Mais là, l'ado avait dit qu'il avait quand même écrit à l'autorité de tutelle. Le vice-ministre de la fonction publique n'a pas seulement mis les agents à la retraite, mais a aussi réglé des litiges de longue date. On peut citer les paiements de retraités de la DGI, DGDA, DGRAD et INES de 2017 qui n'étaient pas encore payés, les paiements de retraite 2010 après confirmation de leur retraite par l'ordre présidentiel de juin 2022, le paiement de certains généraux et directeurs retraités payés en 2017, qui ont tenu leur réclamation plusieurs fois à la fonction publique, qui ont trouvé un écho favorable à l'avenue du vice-premier ministre. Malgré les péripéties de la ville de Congolais, doivent avoir le devoir de mémoire. Le VPM Liaou est quelqu'un à encourager les coûts des fonctionnaires et des solutions à leurs problèmes. Enfin, lui, il avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la retraite de l'administration publique. Voilà, c'est pour dire quelque part, le vice-premier ministre en de l'administration publique travaille, mais par rapport à cette situation, peut-être qu'il y a eu un manque de suivi ou de communication et qui a fait qu'aujourd'hui les choses soient un peu interprétées de cette manière-là.
Oui, bien sûr, mais maintenant, manque de suivi, peut-être, parce que nous, on est disposé. Chaque mercredi, je l'ai dit tout à l'heure, le VPM reçoit à porte ouverte. Et donc, nos amis directeurs, il y a un effort supplémentaire un peu à faire, mais il y a notre ami de Franck, je pense.
Oui, rapidement, parce qu'on doit prendre l'idée de
Oui, mais qui parlait dans une sorte de métaphore du patient et du médecin qui arrive. Alors, je ne sais pas dans son exemple qui est patient et qui est médecin. Je pense que...
Certainement, le médecin, c'est...
Le médecin, ça doit être le ministère. Oui. Et donc, il appartient au patient, comme c'est le cas tout à l'heure, de venir un peu, de s'approcher. Il a déjà été reçu par le VPM, par le médecin. Il a présenté son diagnostic, le médecin a pris la chose en examen, c'est à lui de venir répondre aussi au rendez-vous qu'on le fixe. Tout moi, je lui viens de lui fixer un rendez-vous là à 15h.
Non, c'est déjà une très, très bonne chose, monsieur le conseiller. Permettez, on va prendre le deux derniers et puis on va conclure. Nous avons Jules Maguire qui nous appelle depuis Bukavu et puis Christian Kassissé qui est à Kampala. Jules, vous avez la parole. On ne va pas trop se lancer dans les débats. Vous avez suivi les explications du conseiller, du ministre. Du ministre d'État, ministre de la fonction publique, que vous avez ajouté par rapport à ça rapidement. Je vous accorde 10 minutes.
Merci beaucoup, monsieur Marcel. Je ne vais pas en tout cas tout dire, tout ce que donc je prévis à cette émission, mais peut-être que je vais poser juste une petite question à monsieur le conseiller du ministre Je voudrais lui poser la question de savoir pourquoi tout ce temps, oui. hein, ils ont observé une sélectivité dans le paiement des arriérés, et bien même des reliquats hein, de ces fonctionnaires, alors que tous les retraités, devraient bénéficier d'un traitement égal conformément à la loi et bien entendu à l'éthique même de la fonction publique. Voilà. Parce que oui. nous, quand vous entendez les revendications de ces fonctionnaires, et bien entendu, il y a une sélectivité. Hein,
voilà, justement, vous avez il a réagi par rapport à ça. Certainement, il va encore éclaircir hein, par rapport à votre préoccupation. Merci, Jules Maguené, d'avoir appelé depuis Bukavu. On prend le tout dernier, Christian Kassessé. Vous êtes à Kampala. Alors, vous en compte également une minute. Allez-y.
Ah oui, Marcel. Bonjour, mes salutations à l'invité, à tous mes connaisseurs. Je voudrais juste dire que. Normalement, l'engagement sur la fonction publique est personnel, individuel. Ce qui fait que cela mérite d'être traité au cas par cas et ne pas prendre une approche générale qui, pour moi, ne serait pas justifiée. En fait, les revendications des agents retraités, directeurs et cadres. Donc, pour moi, il faut plutôt privilégier une approche purement individualisé personnel parce que chaque agent a sa situation particulière.
Voilà, merci beaucoup Christian, c'est un élément nouveau que vous ajoutez à ça, dire traité au cas par cas. Merci d'avoir appelé depuis Kampala à Nouganda, monsieur conseiller, vous avez la parole, vous allez conclure sur le retard au passage de la sélectivité et celui qui estime qu'il faut traiter au cas par cas.
Je disais tout à l'heure qu'on a hérité de près de 314 000 agents éligibles à la retraite. Il n'y a pas de sélectivité, mais il y a de la méthode. Vous savez, on dit toujours que seule la méthodologie permet aux hommes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Et donc, pour un processus bloqué depuis des générations, le VPM, à travers le gouvernement, en tout cas le gouvernement à travers la fonction publique, a mis en place une méthode. La méthode, c'est la progressivité. Parce que la retraite, c'est aussi l'argent. Il faut payer ces gens-là. On ne peut pas envoyer celui qui a passé toute sa vie dans l'administration publique comme un vaurien sans lui payer ses droits. Donc, on doit lui payer ses droits. Et pour lui payer ses droits, il faut une budgétisation, il faut des moyens. Il y a parfois, on budgétise, mais les contextes, les impératifs de la trésorerie ne viennent pas. Il n'y a pas de sélectivité. On a commencé la retraite avec le plus vieux, on essaie de descendre petit à petit. Je suis d'accord avec notre dernier intervenant,
Christian Kassessé,
qui parle bien de traiter les problèmes au cas par cas. Bien sûr qu'il faut les traiter au cas par cas. On ne vient pas sur un plateau de radio pour sataniser, si je peux me permettre, tout un processus de retraite qui a des réussites. Il peut y avoir des faiblesses, c'est normal qu'il y a des réussites. Et penser que l'État ne reconnaît pas les efforts de ces fonctionnaires qui ont travaillé. Les retraités, c'est pas tous les retraités. Aujourd'hui, vous pouvez balader vous pouvez faire des investigations nécessaires. Oui. Il y a des gens qui sont bien contents d'avoir été retraités. Nous recevons d'ailleurs de plus en plus des demandes volontaires des départs. Je veux juste conclure avec cet adage, cette expression qui est très chère à Sénèque, que le peuple me rappelle souvent, que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Donc il faut que nous osons à changer les choses. Il faut que nous osons avec la retraite, parce que la retraite, c'est la voie pour le rajeunissement. La retraite, c'est la voie pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. La retraite, c'est la voie indiquée pour renforcer l'efficacité des services publics.
Merci.
Cher au président de la République.
Merci beaucoup, Carlos Calotto. Je rappelle que vous êtes conseiller chargé des réformes de la modernisation de l'administration publique. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.
Fin c'est de ce magazine, Paroles du Tour de 6 jours. Merci à toute l'équipe des productions. À très, très bientôt.